don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家
正忙碌着正忙碌着
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Rocchini, mais aussi Clément Salazar, Xavier Martinet, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Dophar Guéride. On poursuit notre semaine spéciale sur France Culture consacrée au renouvellement des savoirs. Demain, les savoirs, une semaine que nous avons intitulée, nous, dans Culture Monde, Nouveau regard sur le djihadisme et que nous avons construite en écho à un colloque international organisé par l'Observatoire des radicalisations de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et l'Institut Montaigne qui s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 2 juin. On évoquait hier la question de la transnationalisation de Daesh. Aujourd'hui, entre salafisme quiétiste et action violente, des radicalisations.
Dans le quartier où j'habitais, on était tous un peu perdus. Parce qu'on faisait rien de notre vie. Moi, perso, je cherchais du travail, je trouvais pas. Ils se servent de ça. Ceux qui font les recrutements et tout, ils se servent de ça. Ils te disent, regarde, tu fais rien de ta vie, tu vas rester comme ça. Ils te montrent 2-3 exemples au quartier qu'ils ont 30 ans. Ils te disent, regarde, ils font rien de leur vie, ils sont toujours là. Ils fument, ils ont jamais changé depuis qu'ils ont votre âge. Moi, perso, je connaissais même pas le conflit de la Syrie. Ils te montrent des vidéos, les gens, les femmes qui pleurent. Des femmes qui demandent de l'aide, qui disent « Oh, les musulmans dans l'Europe, vous dormez bien, vous vivez bien. Servez à quelque chose, venez nous aider. » Puis après, tu te dis, tu commences à te poser la question « Mais je sers à quoi, moi ?» On a gâché notre vie. Parce que maintenant, c'est un truc qui va... Que même si je veux tirer un trait dessus, ça va pas s'effacer. Ça va rester là.
Transformer des individus un peu perdus, exclus, sans avenir, en véritable moudjahidin servant une cause juste et prête à mourir pour elle. Voilà le tour de force réussi par l'organisation de l'État islamique. Comment veut-on guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies, disait Victor Hugo à l'Assemblée nationale en juillet 1849, face à l'urgence de la question sociale. Depuis le 11 septembre 2001, la recherche sur le terrorisme islamiste s'est largement développée des deux côtés de l'Atlantique et mobilise des experts de toutes les disciplines pour tenter de découvrir les racines de la radicalisation violente. Hormis Manuel Valls, qui considérait en mars dernier qu'expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser, la plupart des responsables politiques s'accordent aujourd'hui sur la nécessité de comprendre le processus qui mène de jeunes Danois, Français, Allemands ou Belges à des actions violentes au nom d'Allah. C'est tout l'objet d'ailleurs du débat entre deux grands experts de l'islam en France, Gilles Kepel et Olivier Roy, le premier considérant que le passage à l'acte terroriste découle d'une interprétation radicale de l'islam, parfois relayée notamment par les mosquées salafistes, le second évoquant plutôt l'islamisation de la radicalité, c'est-à-dire un processus dans lequel la radicalité serait première par rapport à la religion. Alors que le procès de 7 Strasbourgeois partis en Syrie avec Foued Mohamed Agad, l'un des kamikazes du Bataclan, a débuté hier à Paris, comment comprendre cet attrait pour le djihad? De quoi faut-il partir? D'une révolte générationnelle qui prendrait corps sur le terreau d'une crise sociale et économique, ou faut-il partir d'une crise de l'islam, de l'hégémonie du discours salafiste qui dessinerait les contours du nouveau visage du terrorisme? Quelle place la religion et les textes sacrés y tiennent-ils? Quelle part pour l'environnement socio-économique? À quel moment aussi s'opère le basculement? Voilà les grandes questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin avec deux invités ici qui sont d'ailleurs... qui feront partie de ce colloque international dont je parlais. D'abord, Rick Olzat, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Gand et vous êtes membre de l'Institut Egmont, l'Institut Royal des Relations Internationales. À vos côtés, Mohamed Ali Adraoui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, politologue, chercheur à l'Université de Singapour et auteur notamment de cet ouvrage du Golfe aux banlieues qui était paru au PUF. Je le cite parce qu'on va en parler tout à l'heure. Alors d'abord, je voudrais vous entendre l'un et l'autre, peut-être sur ce débat. C'est vrai que c'est un débat entre universitaires, disons-le, entre experts sur le processus de radicalisation. Certains considérant que ce sont dans les textes sacrés, dans leur interprétation, qu'il faut aller chercher les racines du djihad violent. C'est la position de Gilles Kepel, qu'on connaît bien ici à France Culture. Il intervient régulièrement dans la matinale, alors que d'autres pensent qu'on a d'abord un processus de glissement vers la radicalité, sur lequel ensuite vient se greffer la religion. Ça, c'est la position d'Olivier Roy. Je voudrais vous entendre, vous, sur ce débat et ce qu'il vous semble peut-être révélé. On commence avec vous, Rick Olzat, vu de la Belgique peut-être.
Vu la Belgique ou vu de l'extérieur de la France, c'est quand même un débat typiquement français dans la mesure où il est extrêmement médiatisé, où il est très personnalisé. Mais finalement, c'est un tout vieux débat. Donc le débat sur les causes du terrorisme quand les études sur le terrorisme ont débuté, pas après 2001, mais dans les années 70 et 80. En fait, on avait exactement le même débat. C'est un débat sur quels sont en fait, comment expliquer cette émergence d'un terrorisme d'extrême gauche. Donc vous aviez ici en France Action Directe. Nous avions à ce moment-là en Belgique les cellules communistes combattantes, on avait la fraction armée rouge, les brigades rouges en Italie, et il y avait deux écoles. Et des écoles que l'on pourrait qualifier maintenant de l'école Keppel, l'école Roy. Il y avait une partie des explications qui étaient données par les chercheurs qui disaient, vous savez, l'origine se trouve dans les idéologies d'extrême gauche, les idéologies révolutionnaires. Et une autre école qui disait, non, au contraire, c'est dans le contexte matériel, c'est-à-dire la situation économique mondiale de l'époque que réside en fait
les causes profondes. Donc exactement la même question.
C'est exactement la même question. Et en fait, hein, quand vous mettez ça en perspective, je dirais que c'est en fait les deux tendances dans les sciences humaines. Il y a une tendance dans les sciences humaines depuis la création ou l'émergence des sciences humaines qui dit que en fait l'évolution du monde, c'est une évolution qui est due à l'évolution et le développement des idées. Tandis qu'il y a une autre approche de sciences humaines qui dit non, c'est le contexte matériel qui est le moteur qui propulse le développement de la société. Idée contre contexte.
Mohamed Ali Al-Drawi, comment vous situez-vous dans cette fracture idée contre contexte? Je crois que vous êtes un petit peu à la croisée des deux, vous. Hein.
Il y a plusieurs choses, en fait. C'est une excellente question. Tout d'abord, je dirais que c'est un débat qui, selon moi, a le mérite d'exister. Qui plus est en France, on a, et c'est malheureux de le dire, mais une tendance à oublier que la France a une grande tradition d'études, pour dire vite, de l'Orient, du monde musulman, de l'islam mondialisé, de l'islam global, de l'islamisme et du salafisme aujourd'hui. Donc nous sommes un pays de grande tradition universitaire, épistémique sur cette question. Nous avons des spécialistes qui parlent plusieurs langues. Gilles Kepel a fait son terrain plutôt sur l'Égypte il y a une trentaine d'années, Olivier Roy plutôt sur l'Afghanistan. Et à partir de là, donc, ils ont développé une armature théorique qui leur a permis de penser les évolutions des sociétés musulmanes.
C'est parce qu'ils ont justement des terrains différents, qu'ils ont aujourd'hui une vision, une approche différente?
Vous comprendrez bien que je n'ai pas vocation à m'exprimer en leur nom. Ils sont suffisamment, ils ont toute légitimité à le faire. Et la seule chose que je peux dire, c'est que chacun mobilisera des grilles de lecture épistémologiques qu'il jugera bon. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, la recherche n'étant pas suffisamment aujourd'hui soutenue de ce point de vue-là. Maintenant, à propos du fond, en fait, c'est une question, j'allais dire, de avec quelle profondeur, avec quelle proximité vous regardez les événements. Vous savez, ça m'a fait penser à un débat qui, pour le coup, remonte à l'origine des sciences sociales en Europe depuis un peu plus d'un siècle. Vous savez, les deux grands auteurs, les deux grands papes, passez-moi l'expression, de la sociologie, Max Weber et Durkheim, essayaient de théoriser les évolutions de la société. Un grand livre de Durkheim est son livre sur le suicide, vous savez. Et il expliquait la chose suivante, il disait « Moi, je ne pourrais jamais vous dire pourquoi les gens se suicident. » Jamais. Max Weber vous aurait dit « Nul ne peut vous dire mieux que la personne qui s'est suicidée pourquoi elle s'est suicidée. C'est le sens que les individus donnent à leur action. » Durkheim lui répondait « Oui, d'accord, mais on est d'accord, mais moi ce que je peux vous dire c'est est-ce que les jeunes se suicident plus ou moins que les vieux? Est-ce que les chômeurs se suicident plus ou moins que les gens qui ont un emploi? Est-ce que les catholiques se suicident plus ou moins que les protestants, qui eux-mêmes peut-être se suicident plus ou moins que les juifs ?»
C'est une question d'échelle.
C'est une question d'échelle, une question d'intégration sociale. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, moi, je ferais plutôt partie des gens qui diraient que oui, le religieux fournit une grammaire, et donc, la lecture d'un corpus religieux crée un effet de réalité. Donc, il y a une partie du débat qui est religieuse, au sens où elle n'est pas nécessairement exégétique ou théologique, mais au sens où les gens se situent par rapport à un imaginaire religieux. Ça, c'est la première chose. Mais deuxième temps, il est au moins si important, sinon plus, aujourd'hui, est-ce que les jeunes générations vont plus ou moins en Syrie que les patriarches de 60 ans? Est-ce que aujourd'hui les hommes, avec une éducation religieuse, vont plus ou moins rejoindre d'âge que les gens qui sont passés par un cursus islamique? Donc ça, ce sont les questions qui sont, selon moi, centrales.
S'il y a aussi un débat si fort autour, justement, de ce débat, c'est parce que derrière tout ça, il y a aussi une sorte d'inquiétude, de préoccupation sur l'islamisation de la France et de l'Occident de façon plus générale. C'est aussi ça qu'il y a derrière ce débat.
Bien sûr.
Eric Colzat.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est pas uniquement pour la France.
Ça concerne
partout,
aussi la Belgique, oui, bien sûr.
Quand on fait la comparaison avec la radicalisation, enfin le terme n'existait pas encore, hein, le terme radicalisation que l'on emploie maintenant tout le temps, c'est un terme qui a été en fait inventé en 2004. Mmh. Il n'existait pas avant.
Rappelez-nous justement dans quel contexte il va émerger. Il existe avant, mais c'est vrai qu'il y a un moment où, dans le contexte européen, en 2004, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, il émerge de façon très forte. Comment ?
Il est émergé parce que tout au début, après 2001, les services de police et de renseignement de plusieurs pays européens ont constaté qu'il y avait une tendance de frustration croissante des jeunes, surtout des jeunes d'origine maghrébine, que ce soit en France, aux Pays-Bas, en Belgique, commençaient à s'énerver, à être frustrés. Il y a un sentiment d'injustice, double standard qui joue. Et en fait, à un moment donné, les services de renseignement ont commencé à employer le mot radical. Mais radical, c'est vraiment pour dire, c'est un synonyme pour ils sont fâchés. Ils deviennent de plus en plus fâchés. Et à un moment donné, autour de 2004, le mot a été repris dans le vocabulaire européen, donc dans les instances contre-terrorisme de l'Union européenne, en essayant de comprendre pourquoi et comment. Pourquoi est-ce que des jeunes, et surtout après les attentats, vous vous souvenez, en 2004 à Madrid, c'était pas des étrangers qui étaient venus spécialement de l'étranger pour venir commettre les attentats, c'était des personnes vivant dans la diaspora marocaine et espagnole. Et pourquoi, comment ça se fait que des gens dont certains sont nés ici, dont certains ont grandi ici, comment est-ce qu'ils ont fait pour se retourner contre leur propre pays? Et c'est à ce moment-là qu'a commencé, cette concentration sur qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, de ces individus. Hein, vous parlez
Donc on a mis l'accent sur les trajectoires individuelles.
Sur les trajectoires individuelles. Et ça se... En fait, et ça c'est la grande différence avec la radicalisation d'extrême gauche, le débat plutôt sur la radicalisation d'extrême gauche dans les 70 et 80. Ce débat sur la radicalisation actuellement, je dirais depuis 2004, s'est mélangé, s'est combiné avec, je dirais, les inquiétudes sur l'immigration, sur le rôle de l'islam, sur le fait que l'immigration s'est appliquée surtout à des gens qui venaient des origines de pays à majorité musulmane. Et donc c'est comme ça que radicalisation et islam et islamisation et peur pour la migration, en fait, se sont retrouvés, je dirais, dans un même vocable, c'est-à-dire processus de radicalisation. Et c'est ça qui a fait beaucoup de tort. Le succès de ce mot radicalisation est issu du fait qu'il est extrêmement ambigu. On discute exactement maintenant sur les mêmes questions dont on débattait en 2001, exactement les mêmes. Je rencontre dans les discussions de 2001 et les discussions d'aujourd'hui les mêmes questions et les mêmes réponses ou la même multiplication des réponses, mais en même temps, ça s'est ancré dans le débat public sur l'islam en Europe.
Mohamed Ali Adraoui, peut-être un mot sur ce concept de radicalisation et sur ce qu'il y a derrière, avant d'évoquer vraiment la question de la place de la religion, finalement, dans tout ça.
Je pense que là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, à savoir que les débats n'émergent pas in abstracto. C'est-à-dire que, oui, vous avez éminemment raison de mettre le doigt sur le fait que, aujourd'hui, dans un pays comme la France, plus généralement l'Europe et au sens très large l'Occident, même si l'Occident, c'est un concept difficile à définir exactement, la visibilité d'une forme de violence, qui on l'a vu en novembre dernier, on l'a vu avant à l'occasion d'autres attentats, aujourd'hui elle se greffe sur un certain nombre d'angoisses, de phobies, de pathologies, hein, ça dépend du terme qu'on choisira, qui aujourd'hui interpelle ce qu'on pourrait appeler très largement la présence musulmane en France et en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez le succès d'un certain nombre de livres, si vous prenez le succès d'un certain nombre de partis politiques qui sont structurés autour de la désignation de l'ennemi intérieur, de la personne qui n'est pas comme nous, qui nous pose un danger non seulement sécuritaire, mais je vais me faire l'avocat du diable, mais si ce n'était que sécuritaire, ce serait entre guillemets gérable. Mais si le danger est identitaire et culturel, il est diffus, comme vous disiez. Donc, ils sont partout et... partout à la fois, donc on ne sait pas avec qui traiter. La question de la radicalisation maintenant, ça me fait penser, vous savez, à ces fameux concepts qui sont tellement gros qu'à la fin on ne sait plus trop ce qu'ils désignent, mais il faut bien un concept. C'est un peu comme Churchill qui disait, il faut bien un système, il faut bien une grille de lecture. Donc nous les chercheurs, on utilise le terme radicalisation, même si tous les chercheurs ou pratiquement tous les chercheurs vous diront qu'ils sont extrêmement mal à l'aise par rapport à ce terme. Est-ce que c'est un processus? Est-ce que c'est un contenu? Est-ce que c'est une dynamique? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de radicalisation à l'époque où, par exemple, des gens à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, avec ce niveau de récurrence de l'utilisation de l'idiome radicalisation, pourquoi est-ce qu'on n'a pas théorisé un nouveau débat? Donc, c'est lié à ce que vous disiez encore une fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la présence musulmane, elle est par effet de ce qu'on appellerait de performativité, c'est-à-dire qu'elle nous pose, elle nous amène, pour certaines personnes, à penser les choses en termes d'exception. Comme si aujourd'hui, passer à la violence au nom de l'islam, c'était très différent et suffisamment différent des autres formes de passage à la violence dans le passé.
Rick Colzat, l'ancien juge du pôle antiterroriste Marc Trévidic, avait écrit dans le Télégramme il y a quelques mois, quasiment il y a un an, Je le cite, ceux qui partent faire le djihad agissent ainsi à 90% pour des motifs personnels, pour en découdre pour l'aventure, pour se venger parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans la société, et à 10% seulement pour des convictions religieuses, l'islam radical. La religion n'est pas le moteur, disait-il, de ce mouvement, et c'est ce qui en fait sa force, avait-il dit. Vous avez, vous, Ricolzat, comparé la dernière vague d'individus partis en Irak et en Syrie, dans les rangs de Daesh, aux vagues précédentes, celle de lutte contre l'URSS en Afghanistan, celle ensuite sur les conflits bosniaques et tchétchènes, et puis la vague après l'intervention américaine début des années 2000. Et vous dites que, assez clairement, la motivation est de moins en moins religieuse.
Oui, tout à fait. Quand on constate les discussions entre les jeunes qui partent, on parle souvent des jeunes, mais donc je dirais il y a des différences entre différents pays de l'Union européenne, mais je dirais en Belgique il y a 2/3 de ceux qui sont partis de la Belgique depuis 2012. Le premier départ c'était début d'été été 2012. 2/3 sont au moins de 30 ans. Mais ce qui est frappant, c'est, vous savez, le plus jeune européen qui est parti en Syrie, il avait 13 ans. 13 ans pour moi, c'est pas un djihadiste, même si c'était le frère, le petit frère du fameux Abaout, mais néanmoins des... Vous savez, dans la presse française, vous trouvez souvent des articles sur des jeunes filles, 14-15 ans, qui partent là-bas. Vous savez, ce qui me frappe dans la génération actuelle, ou dans la vague actuelle, leurs idées, qu'elles soient religieuses ou politiques, sont extrêmement superficielles. En fait, c'est une sorte de vernis sur un malaise à vivre, sur un mal-vivre, pour employer ce terme-là. Et donc, ce qui me frappe dans les deux groupes de Belges qui sont partis, il y a un groupe qui est majoritaire chez nous en Belgique, ce sont des jeunes avec un passé de criminalité, mais il y a aussi disons une partie qui n'a aucun passé criminel, ce sont des jeunes filles qui partent du Loiret, des jeunes filles, des jeunes garçons
sans lien direct avec le monde de la délinquance. Alors qu'est-ce qui les motive, eux en particulier?
L'absence d'avenir, ou la perception d'absence d'avenir. Ce qui m'étonne dans certains quartiers de Bruxelles, que ce soit à Molenbeek, célèbrement connu, malheureusement pour Molenbeek, et ça ne correspond pas à la réalité sociale de Molenbeek, mais quand vous allez là, quand vous discutez avec les gens là, vous savez ce qui me frappe souvent, et pas de la part d'extrémistes ou de djihadistes et autres, mais un sentiment largement répandu, et je vous cite, vous savez, n'importe quel effort on puisse faire, on ne sera jamais accepté comme des Belges. Ça, c'est fort. Et donc, vous avez un sentiment dans une partie de notre jeunesse, qu'elle soit d'origine maghrébine ou une partie qui est, pour employer ce terme-là, belgo-belge, le sentiment que on s'ennuie, on n'a pas d'avenir, on n'a pas d'opportunité, on est bloqué de partout. Et là, la grande force d'attraction de Daesh, ce n'est pas son discours religieux, c'est le catalogue d'opportunités qu'il offre à des jeunes qui, à leurs propres yeux, et parfois ils n'ont pas tort, ne semblent pas avoir un avenir dans leur environnement national ou local.
Et est-ce que vous ne diriez pas que la Belgique a également une responsabilité concernant la posture, disons, de tolérance de l'idéologie wahhabite? Je me fais le relais de certaines critiques qu'on a pu entendre du côté de la Belgique. Est-ce que finalement tout cela n'est pas aussi permis parce que les réseaux salafistes s'enracinent, disons, en toute liberté? Et ça nous permettra ensuite de parler de cette question salafiste dans un instant avec Mohamed Ali Hadraoui. Mais d'abord, Ricolzat, c'est une critique qu'on a entendue du côté de la Belgique.
Oui, tout à fait. Et il y a d'autres critiques non fondées qui ont été entendues de l'étranger, qui ne connaissent pas la situation en Belgique, mais vous savez, la plupart des jeunes qui sont partis...
On a cité par exemple la question de la mosquée du cinquantenaire qui est gérée par l'Arabie Saoudite.
Oui, mais quelle est la grande frustration de la mosquée du cinquantenaire, c'est que les jeunes ne vont pas là. Les jeunes qui sont partis ne vont pas à la mosquée. Les jeunes qui partent, ils emploient des slogans vides, où est-ce qu'ils les entendent, dans leur bande de copains, dans leur quartier et sur Internet. Et donc, ils n'ont pas un discours religieux, ils n'ont pas un comportement salafiste, ils n'ont pas, je dirais, ce ne sont pas des fondamentalistes, comme on dit. Et donc, il y a un clivage. Vous savez, les imams dans les mosquées de Bruxelles, ils se plaignent du fait que en dessous de 35 ans, vous ne trouvez pas de fidèles qui viennent le vendredi. Et la grande mosquée de Bruxelles a été la première à être étonnée de l'ampleur et de la vitesse des jeunes qui sont partis à partir de 2012. Donc il y a un clivage clair et net entre cette partie de la jeunesse qui se sent attirée par le message de Daesh et le fidèle comme on les rencontre dans les mosquées, y compris dans les mosquées orthodoxes.
Mohamed Ali Hadraoui, le salafiste. Pour beaucoup, le terme salafiste renvoie à une forme déjà de radicalisation, d'extrémisme sectaire. Pour beaucoup, c'est l'antichambre du djihadisme. Je reprends d'ailleurs des titres de journaux. L'étape préliminaire, finalement, avant de tomber justement dans l'action violente. Mais qu'est-ce qu'ils défendent vraiment? Est-ce que ce sont de dangereux radicaux, voire des terroristes en puissance? C'est la question qu'il faut se poser. D'abord, le terme salaf, donc si j'ai bien compris, c'est les premiers musulmans. Salaf, c'est prédécesseur, ancêtre. C'est comme ça qu'on pourrait traduire. Donc, qui prônent ce retour à l'islam des origines, fondé sur les textes sacrés, sur leur interprétation, sur la parole du prophète. D'abord, il faut dire que c'est pas un mouvement uni, c'est pas un mouvement unifié. Il y a plusieurs branches, il y a plusieurs mouvements. Il y a le mouvement quiétiste, il y a le mouvement réformiste, il y a le mouvement djihadiste, justement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, justement, sur la diversité des réalités qu'on retrouve derrière ce qu'on appelle, nous, le salafisme?
Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Là, vous mettez, encore une fois, vous faites la lumière sur des choses extrêmement intéressantes et, je dirais, même centrales. Enfin, tous les musulmans essaieront de revenir à la parole du prophète. Sauf que le salafisme tel qu'on comprend aujourd'hui, sachant que historiquement à travers les siècles, vous avez eu différentes modalités. Donc le débat serait extrêmement long à investir. Mais aujourd'hui, les courants qu'on dénomme par salafistes, eux, vous diront, enfin, leurs tenants, défendent l'idée suivante, c'est qu'il n'y a pas de meilleure époque que celle des origines. Donc jusque-là, ce sont des fondamentalistes au sens premier du terme, hein, même pas au sens polémique, c'est revenir au fondement. Mais c'est aussi une méthodologie, c'est-à-dire que la meilleure norme étant la plus ancienne, on efface du coup tout ce qui s'ensuit. Donc ce qui n'est pas considéré comme orthodoxe relève de l'innovation. Voilà. Maintenant, vous avez des débats, ça c'est la théorie. Maintenant, en termes pratiques, vous avez des débats, ce qui me permet d'affiner la définition. Vous avez des personnes qui vous diront que pour revenir à la norme, à l'authenticité, n'est-ce pas, pour être sur le chemin de l'orthodoxie, bah, on peut participer aux élections. Et là, vous avez le salafisme du Parti de la Lumière en Égypte. Vous savez qu'il y a...
Les réformistes, en fait.
Réformistes politiques qui, si vous voulez, incarnent, de mon point de vue, une nouvelle génération de l'islamisme. Après, on connaît les Frères musulmans, un mouvement de près d'un siècle né en Égypte, n'est-ce pas, autour de la figure de Hassan al-Banna. Eh bien, les salafistes engagés politiquement, activistes, qui légitiment le suffrage universel, les manifestations dans les rues, qui ont des journaux, qui ont des chaînes de télévision, eh bien, cherchent à emporter la mise, n'est-ce pas, en utilisant eh bien les outils de l'activisme classique. Ça, ce sont le Parti de la Lumière en Tunisie. Vous avez les salafistes quiétistes, ou qui se disent quiétistes, et qui, eux, vous diront une chose importante. Ils vous diront que, déjà, un, la politique ou le militantisme politique nous éloigne du dogme. Ce qu'il faut, c'est purifier notre être, nos pratiques, notre mode de vie. C'est pour ça qu'ils vous diront que, qu'importe le régime politique, dès qu'il est musulman ou qu'il nous protège de la sédition, du chaos, eh bien, il est légitime, il faut lui obéir, aussi imparfait soit-il.
Donc les quiétistes rejettent la politique d'une certaine manière.
Oui, alors de fait, il légitime le pouvoir en place. Donc c'est pas de l'apolitisme, c'est de l'apolitisme militant. Voilà, mais c'est justifié religieusement. Et vous avez des personnes qui, eh bien, font une lecture véhémente de ce qu'on appelle le djihad. Le djihad, si vous voulez, c'est la dynamique entreprise, eh bien, pour être meilleur croyant, et qui vous diront, mais oui, très bien, tout ça c'est très bien, mais aujourd'hui le constat est le suivant, de par le monde, les sociétés musulmanes ont connu la colonisation, après la colonisation occidentale ou européenne, il y a eu les régimes corrompus, en Palestine, en Bosnie, en Tchétchénie, en Irak, en Syrie aujourd'hui, eh bien on n'a pas d'autre choix eh bien que de prendre les armes, et le djihadisme c'est une vision insurrectionnelle du politique, révolutionnaire, donc aujourd'hui là ça me permet de passer à la radicalisation, vous avez eh bien une forme d'appétence, une partie de la jeunesse, et j'insiste sur la jeunesse, l'aspect générationnel, aujourd'hui, eh bien, qui est à la recherche d'un grand combat, un grand dessein, et qui, eh bien, pour défendre les musulmans, pour gagner le paradis, pour avoir le plaisir de conduire un 4x4 dans le désert syrien, eh bien, iront rejoindre, pas seulement Daesh, mais vous avez des mouvements comme Nosra ou comme d'autres.
Alors, la grande question à présent, et ensuite je voudrais entendre Ricolzat sur ce point, mais la grande question, donc on a compris, on a trois grands mouvements, même si on pourrait encore détailler les choses, on pourrait affiner, mais on a trois grands mouvements, donc les salafistes quiétistes, les réformistes et les djihadistes. Quelles sont les barrières entre ces trois mouvances? Et est-ce qu'il y a des porosités? Est-ce qu'on peut être un salafiste quiétiste et devenir un salafiste révolutionnaire? Est-ce qu'on peut être un salafiste révolutionnaire et devenir glissé d'une certaine manière? On parle de radicalisation, hein, on pourrait imaginer une forme de radicalité, là aussi, hein, une flèche de radicalité. Est-ce que c'est le cas? Et quelle est la porosité entre ces différents mouvements?
C'est une excellente question. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux niveaux, le micro-sociologique et le macro-sociologique. Le macro, c'est le niveau des idées, le niveau de la grande politique. De plus en plus aujourd'hui, depuis l'arrivée, j'allais dire, sur le marché, parce qu'on pourrait utiliser une comparaison économique, vous avez des États comme l'Arabie Saoudite qui poussent de plus en plus eh bien, à une distinction. Aujourd'hui, si j'avais un avis à donner, sur le plan dynamique, vous avez une distinction, une condamnation mutuelle et un discrédit mutuel entre quiétistes, par exemple, et djihadistes. Vous savez, on appartient de moins en moins au même monde, pour le dire de manière claire. Les gens qui se spécialisent dans la violence insurrectionnelle, la construction d'un État en opposition avec tout le reste de la région, par exemple Daesh, sont des gens qui condamnent les quiétistes et inversement. Donc si vous allez sur Internet, si vous vous intéressez à la production des clercs, hein, les ulémas, vous avez un discrédit, une disqualification claire et de plus en plus, évidente. Maintenant, au niveau micro-sociologique, cela aussi c'est intéressant, et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, ce que mon voisin a dit, c'est-à-dire que les personnes qui aujourd'hui, par exemple, passent à l'action direct islamique, sans mauvais jeu de mots, ce sont des personnes qui ne passent ni par les réseaux des frères musulmans, les frères musulmans posent d'autres questions, ni par les réseaux quiétistes qui également posent d'autres questions. Donc si vous voulez, aujourd'hui, moi je défendrai la thèse de l'autonomisation du djihadisme, au sens où c'est devenu, passez-moi l'expression, un courant à part, une école à part. Et le continuum, et j'insiste sur cet élément, il n'est de moins en moins religieux à supposer qu'il l'ait été. Historiquement, il l'est, parce qu'on trouve, par exemple, le wahhabisme à des... qui est l'islam officiel prêché par l'Arabie Saoudite. On a des accointances historiquement, mais de moins en moins. Mais au niveau micro-sociologique, eh bien, clairement, vous avez des gens qui passent plus par un groupe délinquant, qui se... Alors, le terme, après, il est impropre, mais on parle d'autoradicalisation, au sens où des gens sur la toile, par un élément virtuel, eh bien, en viennent à l'idée qu'ils doivent aller en Syrie ou en Irak. Eh bien, on passe de plus en plus par des canaux, j'allais dire, passez-moi l'expression, laïque ou séculier, pour arriver au djihadisme, que par des réseaux religieux. Donc, en cela, aujourd'hui, il y a clairement une autonomisation du djihadisme.
Rick Colzat, sur cette idée de l'autonomisation du djihadisme. Je crois dans ce paysage salafiste assez complexe.
Oui, mais je crois que ça va même au-delà de cela. Ce qu'on a constaté dans des études sociologiques qui n'avaient rien à voir avec la radicalisation ou le terrorisme en Belgique, dans différentes communautés, et surtout en Belgique, les communautés marocaines et turques, on a constaté une individualisation de la religion, une individualisation au niveau des jeunes. Ils n'écoutent plus leurs parents, ils n'écoutent plus leur imam, ils n'écoutent plus le leader. Et en fait, comme des jeunes du 21e siècle, ils ne croient qu'en eux-mêmes. Et donc, en fait, dans ce sens-là, ils ne sont pas du tout des salafistes. Les salafistes, ils étudient les textes sacrés pendant toute leur vie, si vous voulez. Et eux, ces jeunes-là, ils ont la prétention, comme toutes les jeunes ont, de croire mieux savoir que leurs ancêtres. Et en fait, ce que l'on constate, c'est un bricolage de leur religion. Et ceci, en soi, n'est pas nouveau. Je me souviens, il y a 12 ans, le meurtre d'un cinéaste controversé aux Pays-Bas par un jeune Hollandais d'origine marocaine. Et donc, on avait saisi son ordinateur, son disque dur. Et donc, un collègue à moi hollandais, pour la justice hollandaise, avait fait une analyse. Donc, c'était un islamologue. Il avait fait l'analyse depuis le premier texte jusqu'au dernier pour arriver finalement à analyser l'explication du Mohamed Bouyeri, donc du tueur. Et en fait, qu'est-ce qu'il a dit, et je cite 2004, c'est un cut and paste, c'est un coller-copier de l'islam, des hadiths, des Corans, etc. Et donc c'est vraiment pour montrer que ces jeunes-là, déjà il y a 12 ans et maintenant, ils emploient ce qu'ils savent employer pour justifier leur attitude. Et c'est leur attitude. Vous savez, moi je vais en Syrie, je ne vais pas dans la glace dire à moi: tu vas en Syrie parce que tu te sens mal dans ta peau. Non, je vais en Syrie parce que ceci et parce que cela, basé sur cette partie-là du Coran et des hadiths, et donc on va trouver une justification. Et donc ça, en fait, ce que l'on constate maintenant, donc beaucoup plus qu'automatisation, je dirais une individualisation qui les met en fait en dehors des grands courants salafistes.
Mohamed Ali Adraoui, je vais vous laisser réagir parce que vous le souhaitiez, mais je vais en profiter pour me glisser dans l'interstice et vous poser une question qui me semble importante. Pour les salafistes quiétistes, qui donc refusent la violence, qui donc d'une certaine manière...
Qui condamnent
la violence, qui d'une certaine manière rejettent le politique, il faut rompre avec la société impie, soit en vivant complètement à sa marge, soit en gagnant la terre d'islam. Mmh. Alors, d'ailleurs, vos entretiens dans votre ouvrage, Du Golfe aux banlieues, vous avez interrogé des gens qui ont gagné des pays, des Français, hein, qui ont donc gagné des pays musulmans pour vivre leur foi en accord avec leurs croyances et leurs pratiques, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, je crois aussi. C'est ce qu'on appelle chez les musulmans le hijra.
La hijra.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut être salafiste quiétiste et partir pour la Syrie et l'Irak? Parce que souvent, on présente la chose comme étant, voilà, c'est le Rubicon, quoi. Si on dépasse cette barrière-là, de fait, on est condamnable.
Alors là, c'est une excellente question. Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, encore une fois, vous avez une véritable lutte d'influence pour le sens islamique. Donc vous avez aujourd'hui, encore une fois, un combat idéologique, un combat religieux qui prend des allures exégétiques. Par exemple, je pourrais vous montrer des sites internet, des ouvrages. Pourquoi est-ce que les savants de l'islam condamnent le terrorisme? Pourquoi est-ce que les savants de l'islam disent qu'il faut rejoindre Daesh? Ce sont deux points de vue antagoniques, mais qui existent. Et vous avez, en fait, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de mesurer ce que j'appellerais l'acceptabilité d'une thèse, l'acceptabilité d'une offre idéologique religieuse. Aujourd'hui, par exemple, le djihadisme, tel qu'on le connaît avec Daesh par exemple, pas seulement, mais avec Daesh en grande partie, intéresse des gens qui ont déjà une appétence relativement éprouvée pour la violence ou pour les discours anti-système. Pour les personnes, ce sont des personnes qui vous diront « eux et nous ». Ce sont des personnes qui ont une politisation mais inachevée, au sens où elle n'est pas, institutionnalisée. Elle n'est pas prise en compte par des partis, par des mouvements. C'est sur une base individualiste, comme le disait mon voisin, je suis d'accord. Et c'est aussi sur une base extrêmement, j'allais dire, anti-système. C'est-à-dire la théorie du complot, le conspirationnisme est extrêmement populaire. Déjà avant même le fait que l'islam soit embrassé en tant que religion. Les quiétistes, c'est différent. C'est une appétence pour l'économie, pour la réalisation individuelle. Et encore une fois, ce sont des personnes qui sont à l'aise. Si elles ne le sont pas moralement, elles le sont culturellement, dans la mondialisation. Donc, quand on va, par exemple, dans le Golfe, quand on va en Algérie, quand on va en Égypte ou en Malaisie, hein, je vis à Singapour, donc c'est pas très loin. Ce sont des personnes qui créent leur entreprise, qui incarnent, si vous voulez, comme dans le judaïsme, comme dans le christianisme, une forme de postmodernité de ce point de vue-là. Donc c'est vrai, vraiment, je dirais de plus en plus, ça dépend à qui on s'adresse. Aujourd'hui, le djihadisme, c'est véritablement des gens qui, bon, outre le mal existentiel qui touche une grande partie de la société aujourd'hui, mais ce n'est pas parce qu'on est dans une posture de mal-être existentiel qu'on va en Syrie. C'est qu'on a une politisation inachevée. On est frustré, on sait qu'il y a un ennemi, et cet ennemi-là, eh bien, on ne peut l'atteindre que par l'offre djihadiste, que par l'enrôlement dans une organisation comme Daesh ou autre.
Rick Kolzat, il y a quelque chose que vous vouliez commenter à propos de ce
qu'on a dit Rick Kolzat. Je suis d'accord, oui, mais ça c'est très rapidement. Oui, encore une fois, la part de l'individualisme, je dirais même de l'hyper-individualisme, c'est clair. Aujourd'hui, le djihadisme n'est pas le retour de la tradition. C'est-à-dire qu'on est en rupture par rapport aux parents, par rapport aux institutions, par rapport à tout ce qui est de près ou de loin pensé comme la société au sens institutionnel. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on a cette appétence pour ce qu'on appelle le champ de la dissidence, le champ de l'antisystème. Regardez aujourd'hui, par exemple, auprès d'une partie de la jeunesse, c'est pour ça que c'est pas seulement la banlieue. Hein. C'est aussi certaines personnes de classe moyenne, vous savez, qui sont extrêmement sensibles à une certaine offre médiatique. Voilà, on nous cache des choses. Ce sont les personnes un peu radicales qui ont le plus de popularité. Donc ça, à mon avis, ça produit une culture, une sous-culture, qui est une contre-culture, et qui, fournit l'armature, le terreau, sur lequel, une offre très radicale et violente peut prospérer.
Rick Kolzat.
Tout à fait d'accord. Je me souviens d'une discussion entre experts, l'expert américain qui disait, la discussion se portait sur comment expliquer cet appel, cette force d'attraction du djihadisme, et pourquoi pas d'un extrémisme d'extrême gauche, par exemple. Et l'expert, Mark Sagemann, un ancien à la CIA, il disait « It's the only game in town ». C'est le seul narratif qui mobilise, c'est le seul narratif qui peut capter ceux qui s'opposent au système, c'est le seul narratif qui peut donner l'impression de faire partie d'autre chose. Et je crois que ce fut Olivier Roy qui, il y a 10 ans, qui disait, vous savez, dans une certaine mesure, ceux qui se disent maintenant les djihadistes, il y a 40 ans, ils auraient peut-être été des militants d'extrême-gauche. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement, à mes yeux, extrêmement important de comparer cette dynamique qu'on appelle maintenant la radicalisation avec la dynamique d'antan, avec la dynamique d'extrême-gauche. Finalement, le processus même au niveau individuel, le contexte dans lequel baignent les individus n'est pas tellement différent. La grosse différence maintenant, c'est que le contexte est beaucoup plus porteur de divisions sociales à cause de ce mélange avec la discussion sur la migration, sur la peur de l'islam.
Oui, là, très brièvement, je pense qu'on est au cœur de quelque chose. Je suis absolument d'accord. La différence, c'est que le contexte social, le terreau de frustration, d'antagonisme, il est clair. Il est en France. On le voit en France, dans d'autres pays depuis plusieurs décennies. Mais il y a un élément qui est peut-être un peu différent, qui explique cette appétence, encore une fois, cette fascination pour le djihadisme et pour Daesh en particulier, qui est, j'allais dire, qui a ringardisé d'une certaine manière Al-Qaïda en proposant un nouveau business model, un nouveau narratif, c'est la dramatisation. On voit dans l'eschatologie, par exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est difficile à entendre et j'en ai conscience, mais Daesh connaît un succès parce qu'il a du succès. C'est-à-dire qu'en s'étendant, en attirant, c'est un cercle vertueux qui s'enclenche. De la même manière, de notre côté, en dramatisant la question de l'islam, on fournit du combustible aux personnes qui aujourd'hui pourraient construire Daesh comme, eh bien, j'allais dire, le parangon de des valeurs islamiques. Donc peut-être dédramatiser la question et revenir à des éléments sociologiques de base, c'est peut-être ennuyeux, mais c'est quand même le plus proche de la réalité. On ferait beaucoup, je pense, eh bien, pour dédramatiser la situation et enlever retirer des arguments aux personnes qui pourraient être susceptibles de rejoindre ce type d'organisation.
Entre salafisme et action violente, déradicalisation en deux mots, on va parler de déradicalisation en un mot. Aarhus, l'ouest du Danemark, la ville du Jyllands-Posten, le quotidien qui avait publié, on s'en souvient, en septembre 2005, les 12 caricatures de Mahomet. C'est là qu'a été mis en place en 2007, après les attentats de Londres, le premier programme de déradicalisation du royaume.
What I'm interested in is... Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un équilibre dans la vie de ce jeune, de telle sorte que la religion n'empiète pas sur tout ce qu'il pense et tout ce qu'il fait. Et au bout d'un moment, il commence à se dire « peut-être que je peux être un bon musulman sans partir en Syrie ».
Ce programme est le meilleur moyen de régler le problème entre la communauté musulmane et les Européens. On doit pouvoir sentir qu'on fait partie de ce pays. Nos enfants sont nés ici, nous vivons ici, on ne connaît aucun autre pays.
Voilà, ça c'est du côté du Danemark, Rick Kolsat. On est presque 10 ans après hein, maintenant. Quel bilan est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que le Danemark, c'est un modèle? Et puis ensuite, la question que je voudrais vous poser, c'est ce que vous faites du côté de la Belgique, parce que il y a eu un programme aussi qui a été mis en place, même je crois un petit peu avant, le plan radicalisme, si ma mémoire est bonne. J'ai lu ça sous votre plume, et je voudrais savoir quel bilan est-ce qu'on peut en faire également. Alors, sur d'abord le Danemark.
L'importance du Danemark, le Danemark a été parmi les premiers pays de l'Union européenne à considérer que la question de la déradicalisation est en fait essentiellement une question de cohésion sociale, que l'approche la plus appropriée est une approche individuelle. Et ça, je crois, on peut pas mettre assez l'accent là-dessus. Aarhus, donc la ville au Danemark où le programme de déradicalisation c'est le plus développé, vous partez en Syrie, vous revenez, vous êtes accueillis. Donc vous n'êtes pas mis en prison, sauf si on a la preuve que vous avez commis des atrocités, mais on va essayer de vous accueillir de nouveau dans la société. Et en fait, depuis Aarhus, il y a plusieurs villes, aussi en Belgique, comme par exemple Vilvoorde, qui ont pris l'initiative de copier en fait ce programme. De copier ce programme, pas uniquement pour ceux qui reviennent de la Syrie, mais bon, il y a des parents qui viennent chez moi. Je suis le maire d'une petite ville. Il y a des parents qui viennent chez moi pour dire ce que je ne suis pas, évidemment. Je suis pas maire, oui. Je suis académique.
On est dans une fiction.
On est aux fictions, mais non, une fiction qui est très proche de la réalité dans certaines communes, dans certaines municipalités belges. Donc il y a des parents qui viennent et qui disent, vous savez, je m'inquiète pour mon fils. Qu'est-ce que le maire fait alors? Le maire réunit tous ses agents de la prévention, mais y compris aussi les forces de police, service, l'antenne locale des services de renseignement. Et on essaie de voir quel est le problème avec cette personne-là. Donc en fait, c'est du très individualisé, puisque les processus de radicalisation, pour employer ce terme-là, sont extrêmement différent d'une personne à l'autre. Il faut comprendre la situation locale et les motivations personnelles pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut et qui est-ce qui peut approcher ce jeune pour de nouveau le ramener dans la société.
D'une certaine manière, c'est une réponse qui s'inscrit plutôt dans la vision d'un Olivier Roy. On parlait tout à l'heure de ce fameux débat entre Gilles Kepel et Olivier Roy. C'est plutôt cette approche-là, l'approche, disons, individualiste, l'approche socio-économique des choses.
Tout à fait. Il n'y a pas de différence de base entre essayer d'empêcher un jeune de commettre un suicide ou d'empêcher le jeune de partir en Syrie.
On n'essaye pas de lui réapprendre le bon islam, je mets beaucoup de
sûrement
guillemets.
Pas.
Alors, ça dépend, parce que Olivier Roy ne sera pas nécessairement d'accord avec le concept de déradicalisation en un mot. Mmh. Donc déjà, c'est compliqué de parler de déradicalisation quand on a nuancé la pertinence du terme de radicalisation en lui-même. Donc déjà, vous voyez, il faut être très modeste. Il y a un élément, dans ce genre de discours, si vous voulez, ce qui me frappe souvent, c'est que ça me fait penser, vous savez, au programme de désintoxication. C'est comme si un virus était répandu au sein du corps social et que certaines personnes, eh bien, devraient être aidées, assistées, eh bien, pour s'éloigner de ce mal, j'allais dire. Sauf encore une fois que le mal, il a plusieurs sources. C'est-à-dire que si on parle d'imaginaire religieux, la question c'est qu'est-ce qui pousse certaines personnes à adopter cet imaginaire religieux? Ça, la question finale.
D'accord. Pour être très clair, vous prenez aussi la dimension religieuse de cette prise en charge. Il faudrait aussi, d'une certaine manière, faire l'approche critique de la vision de l'islam, religieuse de l'individu.
Pas du tout. Là, c'est pas ça la question. Vous savez, c'est une question séquentielle en réalité. À quel moment intervient l'ancrage dans un discours religieux radical. C'est ça qui m'intéresse. Alors la question, c'est est-ce que c'est la cause ou la conséquence? C'est ça la question centrale, pour le dire de manière extrêmement simple à vos auditeurs. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des profils particuliers de personnes, des profils sociaux qui embrassent eh bien, le discours djihadiste? La réponse est plutôt oui. Encore une fois, je reviens à Max Weber et Durkheim. Vous avez l'aspect générationnel. Vous avez une question d'imaginaire de la jeunesse aujourd'hui qui est bien qui est portée à embrasser aujourd'hui cette offre radicale.
Je vous pose cette question tout à fait naïve parce qu'il y a des pays qui précisément ont choisi cette approche. On a beaucoup critiqué l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite fait exactement
ça. Sauf que 80% des gens qui passent par les programmes de déradicalisation reviennent après au groupe djihadiste. Voilà. Donc c'est bien que, en soi, si vous voulez, c'est une question de légitimité qui est... Ce programme-là, je vais vous donner un... Je termine là-dessus. Vous m'avez posé la question des passerelles entre quiétisme et djihadisme. Vous prenez l'Algérie, un pays que je connais parce que j'ai fait du terrain là-bas. L'Algérie a connu dans les années 90 une expérience djihadiste meurtrière majeure, nous sommes d'accord. Dans les années 2000, l'État a poussé des prêcheurs quiétistes, eh bien, en contre-feu, si vous voulez. Et aujourd'hui, l'Algérie est un des pays qui fournit en proportion le moins de combattants à Daesh. Comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce que c'est que le quiétisme qui a déradicalisé? Est-ce que c'est le bon islam ou est-ce que c'est parce que l'Algérie a connu eh bien, une période meurtrière trop sanglante?
Rick Colzat, et puis ensuite on passera la parole à une nouvelle invitée qu'on va retrouver par téléphone dans un instant. Rick Colzat.
Une fois de plus, c'est les circonstances locales qui sont cruciales pour comprendre qu'est-ce qui motive les individus et comment on peut les combattre. L'exemple de l'Arabie Saoudite, ils ont en effet un programme très développé de déradicalisation, entre parenthèses, qui est basé sur le dialogue religieux, sauf qu'ils constatent, donc à part le fait qu'il y en a beaucoup qui retombent dans le djihadisme, qu'avec la vague actuelle, des djihadistes de la mouvance Daesh, ça ne marche pas. Donc le dialogue religieux pour essayer de faire comprendre qu'ils suivent une voie erronée de l'islam avec les Daesh, ça ne marche pas. Ça a marché, pour autant que ça a marché avec les autres générations, je dirais, d'Al-Qaïda, mais pas avec Daesh. C'est ce que les Saoudiens constatent maintenant.
On va s'intéresser, si vous voulez bien, à la question des femmes dans le djihad. On va retrouver une nouvelle invitée, c'est Géraldine Cazu. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante en sociologie des religions à l'université de Fribourg, en Suisse, et à l'EHESS. Vous avez consacré une thèse sur les femmes dans le djihad. D'abord, juste un mot, parce que vous êtes arrivée à ce sujet parce que vous travailliez à l'époque en Palestine. Vous aviez rencontré une mère qui avait perdu son fils au combat et vous racontez qu'il y avait chez elle un mélange entre la tristesse, évidemment, de la perte de l'enfant et puis une forme aussi de fierté. On sait que le culte du martyr est extrêmement fort dans l'ensemble, d'ailleurs, de la région. Et vous êtes demandé ce qui se serait passé si le fils avait été une fille. Et c'est comme ça que vous avez consacré vos travaux aux femmes dans le djihad. Vous dites qu'en général, les femmes sont plus considérées comme des victimes que des actrices de la violence. Même si elles adhèrent totalement à l'idéologie, on cherche souvent à trouver des raisons à leurs actions et finalement, d'une certaine manière, on leur impose un statut qu'elles ne revendiquent pas forcément. Alors que pour vous, plus souvent, ces jeunes filles, bien que parfois mineures, rappelons-le, font un choix parfaitement réfléchi et délibéré.
Alors oui, bon, tout à fait, c'est vrai que moi j'ai commencé mes études en m'intéressant à la question du martyr féminin. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des hommes, de ce statut de martyr. Et je me demandais non seulement dans l'au-delà, comment s'était présentée cette question du martyr féminin, mais aussi voilà les répercussions sociales et culturelles. Donc moi je me suis d'abord intéressée aux femmes kamikazes en Palestine et en Tchétchénie, et c'est vrai que j'ai constaté que on essayait toujours de trouver des explications dans l'histoire personnelle, en disant ben, que voilà, peut-être que cette femme était stérile, qu'elle ne pouvait pas conduire sa vie en tant que femme de façon épanouie dans la société dans laquelle elle évoluait. Donc du coup, finalement, l'acte de kamikaze devenait une sortie, un suicide, presque un suicide honorable, quoi, une voie de sortie honorable. Et c'est vrai que ça m'a interrogée parce qu'on n'a pas tendance à faire ça pour les hommes, donc on ne questionne pas l'intentionnalité d'un homme ce serait fait exploser, mais chez les femmes, c'est souvent le résultat, on interprète ça comme étant le résultat d'une manipulation, donc il y a toujours un homme derrière, ou alors parce que c'est des personnalités fragiles. Donc voilà, moi j'ai voulu m'intéresser à où s'exerçait, une violence ordinaire dans le djihadisme, et je me suis intéressée au cas de femmes occidentales qui s'étaient retrouvées dans des djihads précédents, pour finalement me focaliser sur les djihads contemporains en Syrie. Donc c'est vrai qu'il y a une culture de l'excuse avec les femmes violentes et c'est encore plus clair quand on parle aussi des femmes qui s'engagent, j'insiste sur le terme d'engagement effectivement comme vous avez compris, les femmes qui s'engagent dans le djihad actuellement. En fait moi ce qui me questionne c'est comment à un moment donné de leur vie Daesh ou bien du moins que l'offre de Daesh est apparue comme étant le choix le plus rationnel à faire. qu'on a 16 ans, qu'on a 25 ans, qu'on a 30 ans, comment ça se fait que parmi toutes les offres qui sont à disposition dans nos sociétés, on a des gens qui sont nés ici, qui ont été spécialisés ici, qui ont décidé que c'était l'offre qui répondait le mieux à leurs besoins. Donc c'est en ces termes-là que je parle de choix, pour aussi un petit peu, peut-être, relativiser les thèses de l'emprise mentale, enfin on va dire de la seule emprise mentale.
Ce que vous avez constaté, Géraldine Cazu, et puis on va essayer d'arranger un tout petit peu la ligne, qu'on perd un petit peu, en tout cas parler peut-être le plus près possible de votre micro. Ce que vous avez constaté, c'est que, clairement, ces femmes réfutent l'idée selon laquelle on aurait ici en Occident un modèle permettant l'émancipation de la femme, et celui d'Aesh, où elle serait soumise. En réalité, pour elle, finalement, l'Occident permet une émancipation viciée, dans laquelle la femme ne peut pas vraiment s'épanouir. Vu d'ici, on a plusieurs images, finalement, des femmes dans le djihad. Celles qui prennent part directement au combat, aux actions, les fameuses femmes kamikazes, par exemple, et celles qui, disons, en se mariant, en ayant des enfants, cherchent à prolonger la lutte dans la conception, finalement, d'une nouvelle génération de djihadistes potentiels. Comment est-ce qu'elles se projettent, justement, entre ce rôle de combattante et celui de, disons-le comme ça, de mère procréatrice, pardon.
Alors déjà, je pense qu'il faut reclarifier que les femmes n'ont pas accès à la violence directe en Syrie, donc ça ne veut pas dire que pour certaines, elles n'en ont pas envie. Parce que c'est vrai qu'elles croient en fait à la même cause que les hommes, enfin on va dire de la même façon. Donc du coup, pour certaines, ça serait légitime de pouvoir aller sur le champ de bataille, non pas pour faire comme les hommes, mais pour défendre la cause en laquelle elles croient finalement comme les hommes. Là, on n'a pas dans une perspective de prendre les armes pour acquérir une forme aussi d'égalité par rapport aux hommes, parce qu'elles ont déjà la perspective qu'elles vivent dans une société qui est parfaite, parce qu'elle est régie par des lois divines. Donc, du coup, les rôles qui lui sont attribués en tant que femme n'ont pas vocation à évoluer, parce que c'est déjà parfait, mais à ce niveau-là, il y a une volonté d'égalité plutôt dans l'accès à la violence pour défendre cette cause, mais pas nécessairement pour faire comme les hommes. Mais ça, c'est déjà une chose, et c'est vrai que ce rôle de femme, on va dire au foyer, d'épouse, de mère, c'est quelque chose que nous, on a tendance à pas comprendre. Enfin, pourquoi une femme partirait en Syrie simplement pour devenir femme au foyer? Et c'est aussi méconnaître que dans le djihad, vu que maintenant le djihad a été érigé en devoir individuel pour chaque musulman, enfin dans la perspective de l'État islamique, le devoir de la femme, c'est avant tout d'être une épouse et d'être une mère, c'est-à-dire de pérenniser aussi l'idéologie de Daesh au-delà de simples frontières terrestres, mais aussi en inculquant, si on peut dire, l'amour du djihad à une nouvelle génération. Donc c'est vrai que c'est central et ça prend effectivement le contre-pied hein, de ce modèle occidental qui veut que la femme soit indépendante, où là on a des femmes qui sont nées ici, qui ont grandi ici, qui nous disent « ok, ben, ce modèle n'est pas satisfaisant ». Enfin dans le sens, c'est pas là qu'on va vraiment pouvoir exercer sa liberté en tant que femme, et ce qu'on a du mal, je pense, à comprendre, c'est que des femmes puissent se dire libres en s'imposant des contraintes. Et en disant, je ne peux être libre seulement quand je connais le cadre dans lequel ma liberté peut s'exercer.
Je voudrais qu'on entende peut-être Mohamed Ali Hadraoui et Eric Colzat sur cette question des femmes.
On peut faire plusieurs remarques. On peut émettre l'hypothèse que le genre féminin, symbolise peut-être plus que le genre masculin l'hyper-individualisme, puisque, comme on vient de l'entendre, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est soumise à un agenda particulier lorsqu'on va, qu'on s'engage, je reprends le terme, dans la carrière djihadiste. On peut très bien avoir les mêmes raisons. Les femmes font de la politique. On a l'impression que les femmes font moins de politique que les hommes, mais elles peuvent être aussi des activistes, des militantes, aussi convaincues que les hommes. Ça, c'est un élément important. Donc, c'était une piste à creuser. Deuxième chose, c'est, j'ai bien aimé le point de départ sur la référence à la Palestine. C'est parce que on peut comparer les générations, mais on peut aussi comparer les configurations politiques. Vous avez mis l'accent sur le martyr. Regardez, par exemple, un martyr dans la tradition, dans le contexte politique palestinien, il est encore vivant après sa mort. Vous allez en Palestine, vous avez des images de martyrs, on les célèbre, les familles sont prises en charge, et vous avez une forme de reconnaissance post-mortem, n'est-ce pas? Une vie post-mortem du martyr. Dans le djihadisme, c'est complètement différent, notamment les gens qui reviennent en Europe. Regardez aujourd'hui un élément auquel on n'a pas vraiment prêté attention. Mohamed Merah, sa dépouille, a été refusée par le pays d'origine, l'Algérie. Le corps djihadiste n'appartient à personne. C'est extrêmement intéressant. Par-delà leur engagement pour sauver les frères et sœurs musulmans et musulmanes dans le monde, leur engagement n'a pas de sens post-mortem. C'est bien que le djihadisme n'est pas ancré dans un territoire. C'est extrêmement important. Le djihadisme ne trouve, j'allais dire, de logique que la mort, que dans la mort pour la mort.
Ricolzat, dernier mot, réaction et mot de la fin aussi, ce sera le... En guise de conclusion.
Géraldine Cazu, en parlant des femmes dans le jet, parlait, enfin, employait un mot, situation non satisfaisante. Et en fait, aux situations peu satisfaisantes que les jeunes filles et les femmes ressentent ici. Et en fait, c'est la même chose pour les garçons. Un sentiment que, ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent trouver ici en Occident. Et donc, la force d'attraction, je crois que c'était Mohamed qui a employé le terme, l'offre de Daesh, c'est le catalogue de solutions pour les différentes frustrations et manques de perspectives que les hommes et les femmes semblent avoir ou semblent ressentir dans leur propre pays. Ça, c'est ce qui attire Daesh.
Merci beaucoup à tous les trois, Géraldine Cazu qui était avec nous par téléphone, et merci également à vous, Rick Colzat, d'avoir été avec nous ce matin, et à vous, Mohamed Ali Adraoui. On mettra les références de vos ouvrages sur le site de Culture Monde, sur www.franceculture.fr. Je rappelle que vous participez l'un et l'autre donc à ce colloque international qui commence aujourd'hui, organisé par l'Observatoire des déradicalisations de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et l'Institut Montaigne. Merci infiniment d'être venus l'un et l'autre.
Merci à vous. Bien volontiers.